Radio Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, les 18h pile à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Le dysfonctionnement à la prison de Makala expose certains magistrats du parquet à des sanctions selon la ministre de la Justice après une visite. Rose Mutombo attend élargir cette inspection aux autres prisons du pays pour mettre fin aux anomalies constatées. 13 personnes mortes calcinées, c'est le bilan d'un accident survenu sur la route de Likasi dans le territoire de Kambove. Les infortunés ont été inhumés non loin du lieu du drame. Notre invité, c'est le responsable du centre d'encadrement des enfants retardés mentaux à Goma, au Nord Kivu, Aristide Mukaniroa, parle de la problématique de leur prise en charge dans cette ville. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. La ministre d'État et ministre de la Justice attend mettre fin au dysfonctionnement constaté à la prison centrale de Makala. À l'issue d'une visite aujourd'hui, Rose Mutombo affirme que certains magistrats du parquet s'exposent à des sanctions. Elle attend élargir ses visites d'inspection aux autres prisons du pays pour mettre fin aux anomalies constatées. C'est ce que nous explique Jeff Ngoy.
Quelques magistrats des parquets de Kinshasa sont dans les viseurs de la ministre. Ils s'évertuent à envoyer à Makala des personnes en situation préventive sans procès ni condamnation, ce qui contribue souvent à la surpopulation carcérale. La situation est pareille en province. À l'issue d'une séance de travail hier avec le ministre provincial de la Justice du Congo central, celui-ci a exposé plusieurs problèmes liés à la surpopulation carcérale, à la ration des pensionnaires et à l'administration des agents judiciaires dans sa province. Le tableau est chaotique selon le ministre provincial Patrick Yala. Il y a des détenus qui ont passé plusieurs semaines ou mois sans être présentés devant leur juge, a-t-il déclaré. Par exemple, les prisons centrales de Boma et Luozi, construites en 1905, ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Les bâtiments sont devenus vétustes, entraînant une série de chaos déplorés. La garde des Sceaux a fait savoir que les fonds alloués aux prisons pour l'alimentation des pensionnaires et l'entretien avaient toujours été mal répartis et parfois détournés. Mais elle affirme avoir décanté la situation. Toutefois, le problème se pose encore au niveau de l'administration de la justice dans cette province.
Notez que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a plaidé ce mardi auprès de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, pour l'installation d'un tribunal de grande instance à Kasumbalesa pour pouvoir réprimer la criminalité. Le transfert de l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, à la prison de Makala, ici à Kinshasa, est fait en violation de la loi. Déclaration faite à la après ce mardi ici à Kinshasa par le coordonnateur du collectif Free, François Béa. Victor Tessongo affirme que François Béa devrait plutôt être transféré devant son juge naturel. Il s'est confié à Jean-Francis Mouya.
Le collectif ou bien la famille, est-ce que nous sommes satisfaits par rapport à son transfert à Makala? Nous pourrons dire à moitié. La procédure que l'ANR a encore menée aujourd'hui, c'est ce que Khaled faisait à l'époque. Il fallait transférer d'abord M. Béa Kasunga devant le parquet et c'est là le magistrat pourra maintenant décider de pouvoir lui transférer soit au niveau de Makala ou bien le relaxer. C'est comme un OPJ, je pars avec un exemple plus facile, qui vous arrête dans un sous-siate, il vous interroge. Au lieu de pouvoir se référer à la hiérarchie qui est le magistrat, il vous transfère directement à Makala. C'est donc quelle procédure? C'est ce que le collectif est en train de fustiger aujourd'hui. S'il faut légaliser l'arrestation de M. François Béa, ramener M. François Béa devant le tribunal va devoir instruire un dossier. Et si le parquet trouve qu'effectivement ce qui a été reproché à François Béa s'avère vrai, il va fixer l'affaire devant le juge et François Béa sera transféré à la prison.
Dans un autre chapitre, 13 personnes mortes calcinées, c'est le bilan de l'accident d'un bus de transport en commun survenu dimanche soir sur la route de Likasi dans le territoire de Kambove. L'administrateur du territoire affirme que les victimes ont été inhumées dans un cimetière proche du lieu du drame. Joubek Moubake a été joint par Jean Gandou.
Il s'agissait d'un bus de marque Rosa en provenance de Likasi. À son bord, il y avait des passagers. Il est entré en collision avec un minibus de marque Noa qui provenait de Lubumbashi, rempli de marchandises, au niveau de 55 km. Dans le territoire de Kambos, le bus il a commencé à prendre feu pendant que à l'intérieur, il y avait des passagers. Quelques-uns se sont échappés, mais les autres étaient coincés à l'intérieur parce que le bus prenait le feu. Et les rescapés étaient acheminés dans les formations médicales à Likasi, les autres à Lubumbashi. Mais lorsque nous sommes descendus sur place, en fuyant, il y avait 12 crânes, 12 calcinés, y compris celui qui était acheminé à Tumbe qui est mort. Donc, c'est 13 morts. C'est pratiquement impossible de connaître la cause de l'accident. Il n'y avait personne qui pouvait nous donner la cause de l'accident parce que tout le monde était parti. On avait trouvé que les épaves en train d'être brûlées. Je me suis rendu sur place, assister au ramassage des os qu'on a enterrés à un cimetière le plus proche de la route.
Revenons ici à Kinshasa où de longues files de véhicules ont été aperçues ce mardi dans plusieurs stations-service qui sont venues s'approvisionner en essence. La difficulté demeure en dépit du fait que certaines stations-service ont été ravitaillées hier selon le ministre des tutelles. Un reportage de Jean-Francis Mouya.
Bien que dans certains coins de la capitale, la situation relative à la difficulté d'accès à l'essence au sein des stations-service soit légèrement améliorée, c'est tout le contraire dans d'autres par contre. C'est notamment le cas dans la commune de la Gombe. Selon certains conducteurs, c'est parce que les quelques stations qui ont pu se ravitailler n'ont pas reçu une quantité abondante d'essence. Cela inquiète de plus en plus la population ainsi que les automobilistes qui ne cessent de se plaindre.
Eh ben, la situation aujourd'hui, elle est comme hier. La situation est difficile. L'accès pour avoir quelques litres d'essence, sous Simat, il n'y avait rien. Et là, j'ai vu un camion de ravitaillement de la CEP. Et j'ai dû rester. Mais j'ai passé une heure de pause. Et c'est pas une situation intéressante, ça dérange énormément.
Notez que concernant son prix de vente, aucune augmentation n'a été déclarée de la part des autorités compétentes.
On enchaîne avec le Kasaï oriental où les agents de la minière de Bakwanga, Miba, ont manifesté ce mardi pour protester contre la paye par la FN Bank de 50% de leur salaire du mois de février. La direction générale de l'entreprise parle des malentendus étant donné que le banc syndical de l'entreprise n'a pas transmis les clauses des négociations conclues avec l'employeur. Le directeur général demande aux agents d'être calmes car les instructions viennent d'être données à la banque pour libérer la totalité des salaires de chaque agent. Ambujimai, Esther Dalafina.
Les agents de la minière de Bakwanga étaient nombreux ce matin devant la First Bank nigérienne pour retirer leur salaire. Ceux qui ont accédé le premier ont communiqué à leurs collègues que la banque paye que 50% des salaires et non la totalité. Certains haussent les tons et s'insurgent contre la décision. Le gouvernement a donné l'argent pour qu'on paye la totalité des salaires aux travailleurs, mais arrivé ici, on donne la carte pour signer comme ayant touché la totalité des salaires, mais là, on donne 50%, nous avons refusé. Contactez les directeurs généraux de la minière de Bakwanga Miba affirme qu'il s'agit d'un malentendu car le personnel n'a pas reçu la bonne information.
Le personnel n'a pas tort de s'énerver parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et là, nous constatons que le personnel n'avait pas reçu la bonne information. Nous étions en train d'attendre le paiement partiel du ministère des Finances sur notre créance certifiée.
Colonel Lukusa demande aux agents d'être calmes. Selon lui, la situation vient d'être réglée.
Que le personnel se calme, nous avons levé l'option, nous avons décidé et inscrit la banque pour donner la totalité de la paie qui sera alors la paie du mois de février.
Pendant que certains agents refusaient de toucher aux 50% des salaires, d'autres agents ont jugé bon de retirer les fonds disponibles au guichet de la banque. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, partons maintenant pour l'Ituri où trois membres de la task force ont été libérés ce mardi par les miliciens de la CODECO après 48 jours dans leur marquis du territoire de Djougou. Selon le coordonnateur intérimaire de la structure, ces otages ont été remis aux autorités militaires à Bambou. Quatre autres membres de la task force, dont Maloubanga, chef de cette équipe envoyée par le président Félix Tshisekedi, sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. À Bounia, une correspondance d'Isaac Remoyope.
Parmi les otages libérés, il y a le général des FARDC Germain Katanga, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri Inadi, Janvier Bin Ekwale, et les chauffeurs de cette délégation de la Task Force Blaise. Les coordonnateurs intérimaires et porte-parole de cette structure indiquent que ces personnes ont été remises aux autorités militaires à Bambou avant d'être acheminées à Bunia pour rejoindre leur famille. Pichu Iribi rassure que les tractations évoluent pour obtenir la libération d'autres otages, Thomas Lubanga, des colonels des FARDC, et Floribert Ndjabou. Il invite la population à garder le calme et surtout d'être confiante sur l'aboutissement heureux de ce processus de paix.
Aujourd'hui, on a remis entre les mains des FARDC les trois otages, mais est-il que nous avons convenu de la libération de tous les otages, mais ils ont décidé de faire progressivement. Nous leur faisons confiance.
D'autres sources indiquent qu'il y aurait des divergences entre les différentes factions de la milice Codeco, ce qui retarderait le processus. Cependant, les leaders de cette milice seraient prêts à rejoindre les site des précantonnements et sollicite des garanties du gouvernement pour leur prise en charge. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans les territoires de Rutshuru. Des centaines de familles sont actuellement éparpillées dans les localités plus ou moins sécurisées. D'autres se sont réfugiés en Ouganda, mais sans assistance. Le député national Jean-Baptiste Kasekwa, élu de la ville de Goma, demande au gouvernement d'intervenir au plus vite. À Goma, Sifa Magrou.
Le député national Moïndo Kasekwa, qui séjourne dans la région, déplore des pertes importantes des militaires et des civils depuis la reprise des attaques du M23 contre les FARDC, un groupement de Djomba. Jean-Baptiste Kasekwa parle, entre autres, des failles organisationnelles et bien d'autres insuffisances qui doivent être réexaminées et renforcées afin de stopper cette résurgence du M23.
Il y a un problème au niveau des effectifs militaires et à ma qualité de membre de la commission de défense de sécurité, je me propose d'interpeller le ministre de la Défense, de même que tous ceux qui interviennent à la gestion. Comment expliquer qu'à pleine guerre, qui a commencé depuis le 8 novembre, l'on connaisse des situations de dissolution des régiments organiques, des militaires soient dépourvus des rations de combat. J'ai vu des blessés de guerre transportés sur des motos. Notre gouvernement ne prenne pas des mesures de manière à assurer la la charge de militaires au front.
Sur le plan humanitaire, Jean-Baptiste Kasekwa estime un nombre de 38 000 familles déplacées répertoriées par la société civile seulement dans les Rutshuru et qui vivent dans de mauvaises conditions. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Santé à présent. Au Maniema, le médecin chef de la zone de santé de Salamabila plaide pour l'affectation des spécialistes en radiographie et en échographie. Docteur Albert Ounyaweti affirme que depuis 2 ans maintenant, l'hôpital général de Salamabila manque ses spécialistes alors que cet hôpital dispose des équipements appropriés. Il ajoute que pour ce genre d'examen, les malades sont transférés à Bukavu au sud Kivu. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Ça, c'est un plaidoyer vraiment très primordial parce qu'on n'a pas de spécialistes. Ça fait longtemps que cette radiographie traîne au niveau de l'hôpital général de France. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que nous avons des problèmes. Même au niveau de l'échographie, on n'a pas de spécialistes. Alors, nous demandons au niveau provincial, voire même au niveau national, pour nous aider d'avoir quelques spécialistes pour l'utilisation de ces appareils-là. Pour par exemple, la radiographie RX-thorax et les autres examens en cas de fracture, on a vraiment des problèmes très sérieux. Dans ces cas-là, il faut envoyer ces cas au niveau de Bukavu pour trouver une solution. À ce qui concerne l'échographie, nous avons quelques médecins qui se démènent, qui s'établissent par ici, par là pour faire cet examen. Mais nous cherchons, nous demandons pour le moment qu'on ait des spécialistes. On ne doit pas seulement se contenter des petites expériences par les médecins locaux. Vraiment, il y a une grande capacité d'accueil parce que les soins sont gratuits. Mais moi, en tant que le numéro 1 de la zone de santé, je cherche le spécialiste qui ait quand même une certaine formation pour la capacité de diagnostic au niveau de l'échographie.
Actualité internationale.
Au 41e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mardi matin, l'indignation continue après la découverte macabre de nombreux corps des civils dans les zones anciennement occupées par les militaires russes, près de la ville de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé cet après-midi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis la nuit, la zone est de l'Ukraine est
actuellement menacée par les troupes russes. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie européenne a annoncé ce mardi avoir décidé de déclarer persona non grata les membres de la représentation diplomatique de la Russie auprès de l'Union européenne. Josep Borrell leur reproche des activités contraires à leur statut de diplomate. L'ambassadeur russe a été convoqué aujourd'hui au service d'action extérieure pour lui communiquer cette décision. Josep Borrell n'a pas précisé cependant le nombre de diplomates russes concernés par cette décision.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable du centre d'encadrement pour enfants handicapés mentaux et intellectuels à Goma, au Nord Kivu. Aristide Moukaniroua parle de la problématique de leur prise en charge. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Aristide Moukaniroua, bonjour.
Bonjour madame.
Combien d'enfants souffrant d'handicap intellectuel et mental vous encadrez au niveau de votre centre?
Vous savez, les enfants souffrant de la déficience intellectuelle sont très nombreux, pour malheureusement ils ne sont pas encadrés. Du fait qu'ils ne peuvent pas accéder à la scolarisation normale comme tant d'autres enfants, nécessite vraiment un encadrement spécifique approprié à leur capacité intellectuelle. Notre centre qui a débuté en 2006 encadre déjà 68 enfants. Jusqu'en 2012, fort malheureusement, par manque de moyens financiers, nous avons été obligés d'arrêter les activités jusqu'à présent. Mais, n'empêche, comme parmi ces enfants, il y a aussi ceux qui souffrent de l'épilepsie et que les parents ne sont pas à mesure de la prise en charge médicale, étant donné que les soins sont très coûteux, nous parvenons à faciliter la prise en charge médicale en faveur disons, des parents. Et nous les envoyons les uns au groupe d'accompagnement des malades de Gram et à la parole de Saint-François Xavier d'Endoche, parce que là, il y a un collaborateur, notre collaborateur du centre pour handicapés et mentaux, qui est italien, il s'appelle Paolo Volta. C'est lui qui parvient à envoyer même les médicaments pour l'épilepsie, disons, aux paroissiens de cette paroisse-là. Alors comme ça, ça crée quand même un soulagement aux parents, dont les enfants souffrent aussi de l'épilepsie en même temps du handicap intellectuel.
Et aujourd'hui, comment vous faites les suivis des enfants?
Normalement, bien que nous ayons arrêté les activités scolaires, quand même nous continuons aussi quand même à fréquenter certaines familles. Surtout des enfants qui ont beaucoup plus de problèmes, surtout issus des familles pauvres. Parce que vous voyez que ces enfants-là, comme ils ne sont pas encadrés, ils passent les journées en train de sillonner ça et là, c'est l'oisiveté toute faite. Et en conséquence, beaucoup de ces enfants sont victimes aussi de beaucoup d'abus. Mais jusque-là, nous parvenons quand même à passer de porte à porte en cas d'appel parce que nous sommes en train d'organiser de nouveau la relance de ces activités pour ces enfants, pour essayer encore de sauver ces enfants parce qu'ici à Goma, vraiment, ils sont très nombreux et leurs droits ne sont pas respectés.
Est-ce que, au-delà du suivi de ces enfants, vous apportez également un accompagnement au niveau de leur famille?
Oui, parce que au cours, disons, de notre parcours, nous parvenons aussi à détecter certains cas de conflits conjugaux. Une fois, par exemple, dans certaines familles où les parents parviennent à remarquer, disons, la difficulté mentale chez leur enfant, parfois il y a les révoltes. Ou soit les parents se culpabilisent, soit le papa qui se répète en disant non, à partir de mon standing de vie ou mon statut social, je suis docteur en ceci, licencié en cela, ma fonction, tout ça. Le papa dit par honte de ses amis qui doit avoir un tel enfant, il refuse. En refusant que ce n'est pas son enfant, il dit que c'est la maman qui doit avoir touché cet enfant quelque part. Alors que pas. Si nous sommes informés, nous faisons des interventions. Beaucoup ne connaissent pas les causes pour lesquelles l'enfant peut naître avec une déficience intellectuelle. Nous qui avons ces connaissances-là, nous parvenons à les réconcilier. Nous disons, voilà, laissez la maman tranquille. Même vous, en tant que maman, vous n'avez pas voulu que l'enfant naisse de tel qu'il est. Dieu merci, dans certaines familles, parfois nous parvenons à réussir. Mais dans d'autres, les papas fuient définitivement. Et il abandonne et la maman et l'enfant. Alors vous voyez que ça crée une double charge à la maman. Si le papa abandonne, disons, la maman et l'enfant, et la suite de la progéniture, la maman aussi est déjà victime de cet enfant alors qu'elle n'a pas voulu. Voilà.
Oui, et c'est quoi la déficience intellectuelle?
La déficience intellectuelle, par définition, bon, d'une façon générale, c'est le fonctionnement intellectuel nettement inférieur à la moyenne, mais avec déficit d'adaptation à la société. C'est ainsi que nous, en tant que centre d'encadrement des enfants de l'état des mentaux, qui avons la matière, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer d'organiser plus d'ateliers de formation en la matière, afin que la communauté soit informée, non seulement de la déficience intellectuelle, mais aussi pour savoir comment prendre en charge ces enfants une fois les déficiences intellectuelles est déjà en place. Donc la responsabilité revient d'abord à l'État lui-même, parce que c'est l'État aussi qui doit prendre en charge ces enfants-là, comme tant d'autres citoyens du pays. La communauté doit aussi prendre en compte, bon, disons, ces enfants, bien qu'ils soient déficients intellectuels, quand même, ce sont des êtres humains comme nous tous. Aussi, la famille. La famille, d'abord, au sein de laquelle l'enfant est né. Les parents doivent savoir que, une fois leur enfant est déficient intellectuel, il doit être pris en compte au même rang que tous les autres enfants issus de la même famille. Parce que parfois, les violences commencent en famille même, pas le rejet. Mais maintenant, quand sera-t-il maintenant de la communauté? La communauté aussi va faire de même.
Monsieur Aristide Mukaniwa, merci.
Merci aussi, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le responsable du Centre pour encadrement des enfants handicapés mentaux et intellectuels à Goma. Aristide Mukaniwa était interviewé à Goma par Rosalie Zawadi. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition coordonnée par Alain Irungumushige sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.